Depuis 12 ans, il existe à Châtillon-Saint-Jean un salon littéraire jeunesse. Un salon qui vous fait la promesse de l'ivresse, livre jeunesse avec un apostrophe. Cette année, il a eu lieu exceptionnellement à Triors du 27 mars au 1er avril. Pendant 5 jours, rencontres, dédicaces, ateliers, spectacles et animations se sont enchaînés avec un rythme trépidant. Radio Royan a couvert la dernière journée de ce salon. Nous vous embarquons dans notre voyage, entre les allées, à la rencontre des auteurs, de leur enthousiasme, de leur militantisme aussi. Les grandes conversations, c'est tout au fond du bocal, sous la yourte. Lisa Bienvenue et son association Plume de Brigand accueillent auteurs et organisateurs. Un moment intimiste pour croiser les points de vue et les expériences sur des thématiques transversales. Première grande conversation avec Anne Loyer et Guylaine Roman. Il est question de tradition orale et d'écriture.
Bonjour à tous. Bonjour Anne, bonjour Guylaine.
Bonjour. Bonjour.
On est à la radio, en public, sous la yourte, au fond du bocal du salon Livre Jeunesse, organisé par l'école et l'association des parents d'élèves de Châtillon-Saint-Jean. Et on va discuter. Anne, tu écris des romans.
Oui.
Un des derniers s'appelle La Marque. Il y a aussi Carboy qui est paru chez Thierry Magnier. Guylaine, tu écris aussi, tu es écrivaine. Un de tes derniers, c'est pas comme ça qu'on dit ?
Non, ça me paraît.
Ça te paraît trop écrivaine ?
Oui, ça me paraît un peu lourd à porter. Mais ça va.
Tu es écrivaine.
D'accord. Si tu le dis, alors allons-y.
Vous êtes toutes les deux des écrivaines. D'accord. Un de tes derniers livres s'appelle Bagdan et la louve aux yeux d'or.
C'est vrai.
Paru au Seuil Jeunesse. Et il a été illustré par Régis Lejon. Voilà, par Régis Lejon. Toi, tu écris essentiellement des romans. En tout cas, Carboy et La Marque dont on a parlé sont des romans.
Oui, tout à fait. Oui. Alors, voilà. C'est des romans, on va dire, adolescents. À partir de 12-13 ans. Et alors, il y en a un, La Marque, c'est un roman d'anticipation et une dystopie. Et l'autre, Carboy, c'est un roman tranche de vie. Donc, ce sont deux thématiques complètement différentes, en fait.
Deux manières d'aborder l'adolescence.
Voilà.
Très, très différentes. Toi, Guylaine, c'est plus l'enfance que tu abordes
oui.
dans tes albums.
C'est ça.
Tu n'écris pas de romans.
Non, ce que j'écris qui pourrait s'y apparenter reste au fin fond de mon ordinateur et n'a été lu par personne.
Est-ce qu'un jour ce sera lu ?
Je ne suis pas sûre. Je ne crois pas.
C'est ton univers intérieur dont tu te nourris pour écrire.
Oui, et puis. Et puis je ne suis pas, voilà, je suis une très très bonne, une bonne lectrice, j'aime beaucoup les romans, et du coup je me mets la barre très très haut, et là je viens de terminer le roman d'Anne qui s'appelle Carboy, que j'ai beaucoup aimé, ce roman de tranche de vie, et je me dis voilà, il faut y aller quoi, un roman c'est pas rien quoi dans l'écriture, et... J'ai un peu peur de la distance, du travail au long cours. Donc, le format conte, publié sous forme d'album, me convient mieux.
On va commencer par se raconter une toute petite histoire, toutes les trois. Et puis, à partir de là, on va discuter. On a entendu, Anne et moi, toutes les deux, un auteur qui est présent sur le salon, qui s'appelle Jean-Yves Loud, qui a raconté l'histoire d'un roi d'Afrique qui... un jour a fait venir son griot, qui lui a demandé de lui ramener le plus bon morceau d'un animal. Le griot est parti, a marché, il lui a ramené un morceau de langue. Ensuite, ce même roi d'Afrique a demandé à ce même griot de lui ramener le plus mauvais morceau de l'animal. Le griot est parti, il a marché, et lui a ramené de la langue. Est-ce que ça vous inspire à toutes les deux ?
Cette faculté de parler, donc de raconter des histoires, et peut être la plus belle des choses, comme elle peut effectivement être la pire, c'est-à-dire quand ça verse dans la rumeur. Maintenant, on parle aussi de harcèlement, etc. Tout ce qui peut être dit contre quelqu'un peut aussi faire très, très mal, parfois plus qu'un coup ou qu'un acte porté, en fait. Et c'est vrai que la langue est à utiliser avec et parcimonie et beaucoup de maîtrise pour qu'elle arrive à toucher son but et qu'elle puisse dire exactement ce qu'elle veut dire. Parce qu'on peut très vite déraper. Les mots, les mots ont cette faculté-là d'être à la fois quelque chose de très très beau, mais peuvent aussi faire très très mal. Je pense que cette histoire de griot, c'est aussi ça qu'elle veut dire. On peut sans doute dire d'autres choses, mais c'est comme ça que moi je l'interprète.
En fait, le langage, c'est ce qui nous définit en tant qu'humain. Et donc c'est extrêmement intéressant, évidemment, de s'adresser aux enfants autour de cette idée-là, de les amener à développer le langage, parce que qui développe le langage chez un enfant développe l'humanité chez un enfant. Donc c'est évidemment extrêmement important. Pour autant, ce que Diane me paraît tout à fait exact, c'est-à-dire que parler est à la fois une chance et un défi. Et si le défi est manqué, si les mots ne sont pas portés exactement comme ils doivent l'être, ils peuvent être des armes. Parler, c'est un acte. Et je crois que c'est une des choses qu'il faut absolument que les enfants que nous avons face à nous, là, comprennent, parce qu'on sait bien que qui n'a pas les mots passe à la violence, qui n'a pas les mots n'est pas accroché au train de l'humanité et regarde passer ce train en pestant, en râlant, en disant qu'il n'y a pas sa place et prend les armes. Donc les mots, la langue, c'est notre travail à nous, adultes. Cette transmission des mots, c'est notre travail d'adulte. Et nous, en plus, auteurs, on a cette espèce de prétention incroyable de dire, ben, en plus, nous, on va porter ça, on va les écrire, ces mots-là, et on va vous encourager à les lire, etc. Quand on y réfléchit, c'est d'une prétention incroyable. Enfin, voilà. Mais comme on est encouragé par toute une équipe d'éditeurs, d'illustrateurs, de libraires, etc., on finit par se dire que, bon, on est un peu légitime, alors on le fait. Mais on a une énorme responsabilité. On peut blesser aussi à travers nos mots. Récemment, Benoît Sévrac, par exemple, avait donné un titre à un de ses albums, à un de ses romans, à un de ses polars, qui a blessé une communauté. Et la réédition Poche porte un autre nom, parce qu'il ne voulait surtout pas blesser la communauté dont il était question dans ce livre-là. Et il n'avait pas de mauvaises intentions. Mais le mot a été malheureux et mal choisi. Donc vraiment, on a une énorme responsabilité. Il faut qu'on fasse très, très attention à ce qu'on dit, même pendant les rencontres scolaires avec les enfants.
Oui, le mot a une portée très forte. Et effectivement, il faut le choisir, vraiment le sous-peser. Et c'est pas toujours évident, hein, parce que quand justement on est parti à discuter à bâton rompu, parfois ça peut nous arriver, enfin à nous comme à tout le monde, d'échapper des choses auxquelles qu'on ne veut pas dire et qui quand même blessent. Voilà.
Mais est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné, quoi qu'on dise, parce que là on parle des mots, il y a toujours le danger en fait de blesser? Quel que soit le mot, ou qu'il soit mal compris, mal interprété.
Le problème des... Alors, en revenant sur les livres qu'on écrit, nous, en tant qu'auteurs, il est bien évident qu'à partir du moment où le livre est publié, où le livre va être lu, il nous échappe. Et la façon dont il va être reçu dépend forcément du lecteur qui va le lire. Et selon les lecteurs, le livre ne va pas être reçu de la même façon. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir, on peut parler par exemple comme Carboy, dans Carboy, je parle d'un enfant qui vient de perdre sa maman, et qui le mot suicide n'est pas prononcé. On ne veut pas lui dire, on essaye de le protéger. Et des fois, en essayant de protéger quelqu'un, on le blesse. Donc c'est compliqué, les mots. Et puis chaque lecteur qui va prendre ce livre, mettons que la plupart du temps, bah, ils vont lire le livre, ils vont lire l'histoire, et c'est une histoire. Et puis certaines personnes qui vont lire le livre vont être particulièrement touchées. Peut-être, et ça nous arrive, enfin moi je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, c'est mon histoire que vous avez racontée. Mmh. C'est assez rare, bien évidemment, mais c'est terriblement waouh, c'est percutant quand on vient nous dire « mais c'est mon histoire que vous avez racontée ». Et des fois, on vient nous le dire effectivement avec des étoiles dans les yeux parce que justement, bah, ça aura touché la personne. Mais ça peut aussi être violent pour la personne qui lit le livre parce que tout d'un coup, il est, comment dire, il est, on lui raconte sa propre histoire et il ne s'y attendait pas, il ne voulait pas forcément, etc. Donc ça, ça nous échappe. C'est quelque chose qui peut pas, qu'on ne peut pas maîtriser. Et c'est justement la beauté des livres. Moi, c'est ce que je dis en classe quand je vais voir les enfants, c'est que justement, toi, tu vas lire le livre, mais tu ne vas pas le recevoir de la même façon, tu ne vas pas l'interpréter de la même façon. C'est comme les images qui naissent dans la tête. Elles vont toutes être différentes quand on lit un livre d'une personne à l'autre. Et les histoires, c'est la même chose. L'écho qui va y avoir, qui va ressortir d'un livre, est totalement différent d'une personne, selon la personne qui va recevoir ce livre. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est la magie aussi de l'écriture.
Si on vous a réunis en fait toutes les deux aujourd'hui, c'est parce que moi quand j'ai lu en fait vos albums et vos romans, j'ai senti de manière assez instinctive, c'est comme ça que je fonctionne en fait, avant d'y mettre des concepts et des mots, parce qu'on est sur une rencontre qu'on a très prétentieusement appelée écriture et tradition orale. Oui. On a placé la barre très très haut. Mais avant de la placer très très haut, moi je suis partie en fait du matériau, en fait de vos histoires, de vos mots, et j'ai senti en fait que dans vos écritures même, en dehors de vos histoires, parce que du coup pour le coup vos histoires sont, enfin, l'écriture est au service de vos histoires, il y avait quelque chose qui relevait vraiment du domaine du conte et de la tradition orale, ce que je trouvais presque contradictoire, parce que ce sont des écrits et relativement modernes, en fait, parce que dans vos histoires, il y a quand même de la surprise. C'est presque calqué sur une sorte de modèle de conte, avec du suspense, avec de la surprise, alors qu'un conte, a priori, se déroule de manière assez attendue, en tout cas de ce qu'on en connaît. Et dans vos livres, à vous, alors pour le coup, dans la marque qu'on n'a malheureusement plus là sur le salon, et dans Bagdam et la Louve aux yeux d'or, il y a de ça, on sent qu'il y a l'écriture du conte avec un déroulement particulier, précis. On semble s'attendre à des choses et puis ça ne se passe pas comme prévu.
La structure traditionnelle du conte, elle fait partie de nos vies, en fait. La moindre série, le moindre film réfère à cette structure-là. Tout va bien, il y a un pépin, et puis bon, là, il faut se mettre en route, il faut faire des recherches, et puis hop, voilà, on a résolu le problème et tout va mieux. Bon, pour le dire très très rapidement et à l'âge. Mais c'est une structure, évidemment, qui nous aide à réfléchir l'histoire éventuellement. Voilà. Mais elle nous imprègne, et elle imprègne aussi les lecteurs. Donc si on n'est que sur cette structure-là, le livre va tomber des mains des gens, quoi. Ça va être, tout va être attendu, il va y avoir aucun intérêt. Donc d'où justement en ce moment, par exemple, il y a beaucoup de romans polyphoniques, où différents personnages donnent leur point de vue sur la même histoire, sur une même aventure, etc. Tout ça pour essayer justement d'avoir une façon de raconter une narration qui se démarque un peu de ça et qui surprenne le lecteur. Et moi, j'essaie, pour les petits, d'avoir, par exemple, un temps qui n'est pas linéaire dans mes histoires. Et c'est un peu, ça inquiète toujours un peu les éditeurs. Ils ont toujours peur que l'enfant s'y perde, etc. Mais en même temps, ça fait partie du jeu. Et c'est aussi très, très intéressant parfois de revenir en arrière pour se dire « Ah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» etc. Je crois que le principe, ce qu'il faut absolument qu'on garde, nous, c'est la confiance dans le lecteur. Qu'on se dise vraiment, il va y arriver. Ils ne sont pas idiots, ils vont y arriver. Ils sont petits, mais ils ne sont pas idiots. Mais bon, parfois, les éditeurs sont un peu frileux par rapport à ça. Donc, c'est vrai, il y a la trame du conte, très traditionnelle. Et puis, il y a notre travail à nous pour essayer de la faire vivre de façon différente, pour surprendre, justement. Et l'autre jour, dans le CE2 de Châtillon, il y a une petite fille qui expliquait, mais si, par rapport à mon album La poupée de Ting Ting, savoir si le papa était mort ou pas, puisqu'il y avait débat. Et elle a relevé tous les indices, et elle a dit le mot « indice ». Et elle disait aux hommes, mais si, mais regardez, Guylaine, elle a mis tous les indices pour qu'on comprenne. Et je l'ai entendu égrener tous les indices qu'il y avait dans l'album qui conduisaient à la certitude que le papa était mort. Et je me suis dit, bon, j'ai bien fait d'utiliser les ciseaux un jour pour découper le texte et pour le réorganiser, etc. Elle avait tout, voilà, elle avait tout senti, et là, le fait que le texte ne soit pas linéaire ne l'avait pas gênée. Et je me suis dit, bon, voilà, on peut y aller, quoi. Ils ont du répondant, ces gamins.
Vous écoutez Radio Royan, nous sommes au Salon littéraire Livre Jeunesse à Trieure. C'était le 1er avril 2017.
Ah ben, moi, je sais que j'utilise beaucoup cette technique-là. Alors, dans les albums, moi, j'en fais moins, j'en fais quelques-uns, mais peut-être moins, mais en tout cas, dans les romans, forcément. On fait des allers-retours sans arrêt entre le passé, le présent et le futur. Je trouve que, justement, comme tu disais, c'est beaucoup plus intéressant à la lecture. L'idée, c'est aussi de surprendre, et que si on garde juste l'ossature qui nous permet, effectivement, sur laquelle, effectivement, sont basées toutes les histoires qui ont découlé, parce que si on revient aux traditions orales, au départ, ces contes qu'on connaît tous n'était que de l'oralité. Et puis, ils ont été mis par écrit. Alors, il y en a qui se sont inquiétés. Est-ce que l'écriture va rayer d'un coup de baguette magique, ou d'un coup de crayon, plus exactement, la mémoire collective? Ou est-ce qu'au contraire, à partir du moment où on a lu de manière... Enfin, où la lecture s'est démocratisée, à ce moment-là, elle a été donnée encore à plus de monde. Hein, c'est toujours le même débat. Dès qu'il y a, comme aujourd'hui, on voit, il y a eu les films, etc. À chaque fois qu'il y a une nouvelle mode de transmission de la communication et de l'information, on se dit, est-ce que ça va pas rayer, annihiler, est-ce qu'on va pas oublier ce qui s'est passé avant? Or, je pense qu'à chaque fois, c'est plutôt une richesse. Et l'écriture, par exemple, c'est un exemple frappant. C'est-à-dire que on a permis à tout un tas de gens d'avoir accès à plein d'histoires. Et qu'effectivement, les histoires aujourd'hui, on voit les contes détournés. C'est un bonheur de voir, de lire des histoires de contes détournés, parce qu'il y a énormément d'humour. Alors moi, j'en fais pas personnellement, mais j'en lis autour de moi, et c'est vrai que c'est juste plaisant. Je vais avoir un album justement qui s'appelle Minus Lupus et qui joue sur les contes qu'on connaît, les contes classiques, mais en les revisitant. Et toute cette richesse qu'on essaye d'utiliser, c'est effectivement pour parler à l'intelligence du lecteur, c'est pour, à condition, effectivement, des fois, qu'ils aient quand même les bases. Et je pense que l'important aussi, c'est de bien connaître ce qui fait notre richesse culturelle à tous, pour justement s'en détacher et pour aller vers quelque chose d'encore plus jouissif, quoi. Parce que ça peut l'être, en tout cas, et à l'écriture et à la lecture. Et quand on parle à haute voix, on renoue avec ces traditions orales. Je pense que la lecture à haute voix est très importante et qu'elle renoue justement avec ces origines-là. C'est-à-dire que là, on revient aux auditeurs qu'on avait, le griot du début, autour du feu, qui a raconté ses histoires. Et puis nous, dans une classe, quand on lit à haute voix, eh ben, on renoue avec ça et on voit que ça fonctionne. C'est énorme comme ça fonctionne. La lecture à haute voix, pour revenir à la lecture à voix basse, eh ben, je pense que c'est l'un des chemins vraiment à utiliser, à développer. Et on voit, j'ai vu récemment, je sais plus, sur France 3, il y a eu un reportage sur un collège entier qui, alors c'est pas de la lecture à haute voix, mais c'était de la lecture, il mettait un quart d'heure, tout le monde, du personnel de cantine jusqu'au principal, tout le monde lisait. C'est génial, ça. Ouais. Mais ça peut aussi passer par la lecture à haute voix. Dans une classe, le prof de français ou l'instituteur, il y en a beaucoup qui le font, ils prennent 5 minutes, 10 minutes, selon le temps, bien sûr, à lire un livre à haute voix. Mais ça fonctionne. Les enfants, ils attendent qu'une chose, c'est la suite, quoi. Et on s'arrête. Ah bah non, Quel suspense. Ça marche.
Est-ce que vous lisez vos textes à haute voix quand vous les écrivez, quand vous les travaillez? Est-ce que quelque part ça peut conduire votre écriture sans forcément avoir l'idée de vous dire qu'est-ce que ça va donner quand ça va être lu par des adultes à des enfants mais est-ce que c'est quelque chose qui est présent en fait à votre esprit?
Moi tout le temps. Je suis incapable. Bon, évidemment, on n'écrit pas un livre en une fois. Donc, mon premier travail, quand je me remets au travail sur un texte, c'est de rebalayer tout ce que j'ai écrit jusque-là et je me le lis à haute voix pour être un peu, je sais pas, un musicien dirait dans le groove, quoi. Pour continuer dans cette énergie-là, voilà. Et alors, d'un côté très technique et très, très basique, si j'ai laissé passer 4 mots répétés sur 3 lignes, ce qui peut se faire quand on écrit directement comme ça, à la lecture à haute voix, évidemment, ça vous saute aux oreilles. On se dit, ah oui, non, là, c'est pas possible, il va falloir retravailler tout ça. Moi, je suis très, très attachée à la rythmique et aux sonorités. Donc, il n'y a pas 36 solutions pour entendre le rythme de la phrase. Et les sons, il faut les entendre, donc je me les dis à haute voix. Et moi, quand j'écris pour les tout-petits, alors, c'est idiot de dire ça, j'écris pas pour les tout-petits, mais je sais bien que ce sont des textes qui vont être passés par des bibliothécaires, par des enseignants, par des papy-mamies, par des papas-mamans. Donc ces textes-là, je fais très, très attention aux sonorités et au rythme. Et parce que je me dis qu'il faut que ça soit agréable à l'oreille, mais il faut aussi que ça soit agréable pour l'adulte. Il ne faut pas que ce soit un pinsomme non plus pour le passeur qui s'y colle. Donc il faut que lui aussi, il trouve son compte, que ça soit aussi un plaisir pour lui. Et je pense qu'un passeur, un lecteur à haute voix qui se régale, eh bien, ça se sent dans sa lecture et ça permet aux gamins d'accéder beaucoup plus facilement au texte. Donc, je fais très, très attention à ça. Et j'ai un passé de musicienne, j'ai écrit des chansons, j'ai beaucoup chanté et je fais très attention à ça. Pour moi, c'est très important. Et ça peut être un chantier un peu costaud, quoi. Parce que si je trouve qu'une phrase est mal balancée, qu'elle est déséquilibrée, qu'elle donne une impression de claudication, eh ben, ça me gêne et je vais me bagarrer avec 2-3 mots que je trouve trop longs ou trop courts, etc., pour trouver celui qui aura le nombre de syllabes qui va bien et tout ça. Ce qui est parfois un peu idiot, parce que je me dis, mais bon, est-ce que vraiment ça se sent? Est-ce que la différence se sent? Mais comme j'écris d'abord pour moi, ben, si moi je sais que ça va mieux, ben, ça me plaît bien, quoi. Voilà. Mais après, voilà, j'ai écrit, par exemple, Je veux pas y aller. J'ai choisi de l'écrire en vers de 7 syllabes pour justement donner une impression de déséquilibre. Ben c'est pas évident, cette syllabe. Hein. C'est pas du tout le rythme qu'on a. On a été biberonné aux octosyllabes et aux alexandrins. Et donc, 7 pieds, c'est vraiment pas naturel, quoi. Mais j'ai choisi de le faire justement pour qu'on ait cette sensation d'inquiétude et de déséquilibre. Et voilà. Je sais plus du tout pourquoi je dis ça.
On a perdu.
On a perdu
le principe.
Ah oui, sur la voix. Sur se lire, les choses à autre voix. Ouais, voilà, voilà. Oui.
Est-ce que tu te les fais lire parfois par une autre personne pour les entendre de manière différente pour... c'est encore autre chose.
Ça. Alors là, c'est une expérience extraordinaire.
Ça, c'est formidable.
C'est une expérience extraordinaire. Il y a peu de temps, j'ai fait une rencontre invitée par le CRILJ Midi-Pyrénées dans une médiathèque pas très loin de chez moi. Et ces dames-là merveilleuses que j'adore avaient préparé des lectures... De mes textes et moi j'avoue que ça m'émeut chaque fois. Le spectacle musical l'autre jour sur Ouf, fait par les enfants de Châtillon-Saint-Jean, était un bonheur intégral, enfin voilà, d'avoir ce retour là d'entendre les choses dites différemment, et puis toujours ce plaisir de se dire ils ont compris. Et ça, être compris dans le propos qu'on a voulu tenir à travers un livre, c'est ça reste quand même un des grands plaisirs de la vie, hein.
Alors, moi, c'est pareil. Hein. Franchement, tout ce que tu dis, c'est pareil. Parce qu'effectivement, moi, je lis beaucoup à haute voix mes textes aussi. Même les romans, hein, je les lis à haute voix, je les lis à mon fils notamment ma série ICO, là, chez Bulle de Savon, parce qu'il rentre de l'école et il veut que je lui lise. Je le fais avec grand plaisir. Et j'entends tout de suite où ça va pas. J'entends, je vois ses réactions, donc je vois là où ça va pas. Quand je suis en classe et que je lis des extraits, je change aussi, parce qu'à haute voix, on parle pas comme on lit, donc je rajoute des mots des fois, et je sens que voilà, ça passe mieux pour la compréhension, pour la théâtralité quelque part. Quand les enfants ont préparé, quand je vais dans les classes, et que les enfants ont préparé des morceaux de mes livres, de mes romans, qui mettent en scène, c'est incroyable. Non seulement ils ont compris, mais on redécouvre notre texte. Absolument. C'est-à-dire que tout d'un coup, notre texte prend vie. C'est comme s'il prenait quelque chose en 3D. Et nous, voilà, c'est une émotion absolument folle, parce que d'un coup, même moi, je découvre des choses. Et ça, c'est extraordinaire à travers eux, à travers la voix de quelqu'un. J'ai eu la chance de faire un album CD chez les Braques qui s'appelle Sortilège et Carafon. Donc là, j'ai eu la chance exceptionnelle d'avoir Nathalie Dessay qui dit mes mots. Alors déjà, c'est un cadeau, c'est un cadeau unique. Et la façon dont elle prend mon texte, mes mots dans sa voix... c'est juste magique, voilà. Donc c'est vrai que la voix compte énormément dans les mots. Et voilà, la voix, ça a été d'abord, les mots écrits ensuite. Et puis finalement, on n'en sort pas parce qu'ils sont liés de manière indéfectible, en fait. Et pour toujours, je pense. Et je sais que moi, par exemple, tu disais effectivement, pour rentrer dans la lecture, c'est très important la lecture à haute voix. Moi, je vois, je continue à lire à haute voix à mes enfants. Ils ont 12 et 16 ans, ils sont très grands, ils savent lire tout seuls, hein, y a pas de souci. Mais c'est un moment que j'aime. Je le fais tous les soirs avec mon fils. Je lui lis un livre, je prends un livre vers lequel il irait pas forcément. Et mon plus grand cadeau, c'est quand il me dit, bon, écoute, je vais continuer sans toi maintenant. Ah ouais. Et là, je sais que j'ai gagné.
Ah, c'est sûr.
Voilà.
Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Guylaine, le spectacle, en fait, parce qu'il y a quelque chose de particulier, en fait, autour de ce spectacle. C'était pas juste autour de Ouf qui a été fait par les maternelles. Qu'est-ce que c'était, ce spectacle?
Alors, c'est un travail qui a été mené dans la classe d'Élodie, dont j'ai oublié le nom, mais qui est donc la maîtresse des grandes sections de Châtillon, et en collaboration avec Nathalie... Ah là là,
Isabelle
Cosset. Isabelle Cosset. Oh là là. Tu vois, Nathalie Dessay, Isabelle Cosset, ça a fourché. Et donc, ils ont la classe a travaillé sur pour réaliser l'univers sonore de Ouf. Donc tous les événements de la nature autour de ce gland qui germe et qui devient un chêne, les enfants ont travaillé pour exprimer les sons. Donc, par exemple, le son de l'orage, c'était incroyable. Ils ont fait ça avec du papier froissé, etc. Et un commençait à un bout du cercle, les enfants étaient en cercle, et un papier froissé, puis deux, puis trois, puis quatre, puis à la fin. Et quand on fermait les yeux, on avait vraiment l'impression qu'on était sous une véranda avec la pluie qui tombait autour. C'était incroyable. Puis ils ont agité des ballons pour faire le tonnerre, etc. C'était mais vraiment très, très émouvant. Il y avait des chansons qu'avait écrit donc l'intervenante musique, qui est très musicienne et très très fine dans son approche. Vraiment, j'ai pleuré à la fin, c'était ridicule, mais bon, une émotion incroyable. Et tout était fait par ces petits bouchons de 5 ans. Et qui était concentré, qui était à l'écoute, qui respectait la gestuelle de la musicienne qui dirigeait tout ça. Et ils étaient tout à fait dedans, persuadés de l'importance de ce qu'ils faisaient. C'était émouvant, c'était... vraiment, c'était magnifique. Magnifique.
En tout cas, tu en parles très bien.
Ah, je te jure, c'était
Il n'y a que les parents qui ont le droit de voir ce spectacle. Voilà.
Ouais. Les parents normal, étaient bouleversés aussi. C'est, parce que c'était étonnant. Étonnant. Et donc, en plus, la musicienne a composé une chanson qui retrace, avec ses mots à elle, hein, mais elle retrace le contenu du livre, l'histoire du livre. Et les voix d'enfants, quand même. Hein, ça laisse pas indifférent. On a vite les poils sur les bras, quand même, oui. Hein, qui se dressent, hein, quand on entend les voix d'enfants. Ouais. C'était très, très beau. Vraiment très, très réussi. Et c'était très touchant aussi de voir la maîtresse qui était dans une tension incroyable, très, très inquiète. La SEM qui regonflait frénétiquement les ballons qui avaient éclaté quand il fallait pas. Et tout le monde, tous ces adultes tendus pour que les enfants réussissent et que ça se passe bien pour eux. Et tout en leur mettant pas la pression. C'était mais un moment suspendu, extraordinaire, vraiment.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'était une mise en son, en fait, d'un album, donc, à partir de textes et d'illustrations. J'ai trouvé ça très, très belle et très, très forte. Hein.
Ah oui, parce que du coup, tu parlais de 3D, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on a le texte, on a l'image, et là, tout d'un coup, hop, il y a un changement de focale et on est sur les sons. Et c'est beau, quoi. Oui, ça travaille aussi les correspondances. Et, on est dans une démarche qui est très culturelle. Et donc, voilà, on se dit, ouais, l'école fait ça, quoi. L'école fait, à un moment donné, donne accès à une approche très culturelle, très multimodale des choses. Et voilà, et elle sert à ça, elle sert à permettre aux enfants de faire ça. Et je suis persuadée qu'elle a eu aussi un impact par rapport aux familles, parce que c'était une approche musicale, mais qui était presque de l'ordre de la musique contemporaine. Et donc, il y avait aussi quelque chose à apprendre pour les parents dans le fait d'assister à ce spectacle-là. Donc ça, je trouvais ça fort, quoi.
On va bientôt terminer cette grande conversation, mais avant, j'aimerais vous parler du secret et du mystère. Tu parlais tout à l'heure, Anne, des mots qui sont tus et du secret qu'il y a autour dans Carboy de la mort, en fait,
de sa
maman. On dévoile rien de l'histoire parce que ça se passe au début, ça. Voilà. Et... Bon, il me semble quand même que c'est quand il y a des choses qui sont tues, qui sont cachées quelque part, qu'on a envie de les découvrir, comme s'il y avait quelque chose en fait qui nous poussait, une espèce d'instinct qui faisait qu'on avait envie de découvrir la vérité.
Alors c'est marrant parce que le prochain roman qui sort chez Appa de Loup, donc pour les 7-10 ans, à partir de 8 ans, enfin selon, c'est toujours difficile de donner un âge. S'appelle « Les mots qui manquent ». Et effectivement, c'est l'histoire d'une petite fille qui a une maman très bavarde au téléphone. Et ce jour-là, quand le téléphone sonne, elle entend que sa maman décroche, mais elle n'entend rien. Donc c'est très étonnant. Elle descend pour voir, pour ce grand mystère, pourquoi sa mère ne parle pas au téléphone. Et elle prend le téléphone et il y a vraiment, enfin, les gens au bout du fil ne veulent pas lui parler non plus. Et sa maman dit juste trois mots papa, accident, hôpital. Elle prend sa petite fille, donc cette gamine qui raconte, qui est complètement déboussolée par l'attitude de sa mère. Elle l'emmène chez son oncle et elle la laisse en l'embrassant très très fort, mais sans rien lui dire d'autre. Du coup, cette petite fille, eh ben, elle va inventer, elle va mettre des mots sur cette absence de mots. Et bien sûr, elle va penser au pire, parce que quand on est enfant, très vite, et c'est normal, hein, à la limite, tout le monde ferait pareil. Donc elle va penser que son papa est mort. Et son oncle, qui est un peu maladroit, qui ne sait pas trop comment s'y prendre, va pas savoir la retenir, donc elle va s'enfuir dans la rue. Elle va s'écraser contre un monsieur qui arrive avec des fleurs. Donc ce monsieur va la prendre dans ses bras, il va la ramener chez son oncle et elle va découvrir que, en fait, ce monsieur est l'amoureux de son oncle. Et là encore, quelque chose qu'on ne lui avait jamais dit. Donc ces omissions, ce manque, c'est pas un manque de confiance, mais je pense que c'est plutôt pour protéger, parce que les parents, évidemment, ils savent pas toujours, c'est compliqué d'être parent, on le sait tous, hein. Mais c'est difficile aussi pour l'enfant parce que, voilà, d'un côté, il y a un mensonge, de l'autre côté, on ne lui dit pas et du coup, elle invente. Voilà, ça va bien se finir, bien sûr, mais voilà. Et donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les mots peuvent faire mal, l'absence de mots peut faire mal et c'est toute cette difficulté dont on discutait au départ qui émerge, en fait, à longueur de temps dans les rapports humains, les relations humaines. Cette difficulté de communiquer. Voilà, à l'écrit, à l'oral, c'est parfois très compliqué, mais c'est également enrichissant à l'infini parce que tout est possible. Voilà.
Tu peux nous parler du secret dans Bagdan, Guylaine ?
Alors, dans Bagdan, le secret est que... le secret qui est caché donc, à ce jeune garçon, c'est qu'il y a, que rôde dans la steppe, une bande de brigands terrifiants. Le genre qui tue pour faire peur. Juste pour faire peur. Bon, on sait bien que nous aussi, on a affaire à des brigands actuellement qui tuent juste pour faire peur. Et voilà. Et souvent, quand je travaille avec des CM, qui sont voilà, des gamins qui écoutent un peu, qui savent ce qui se passe dans le monde actuellement, ils savent bien que ça existe, les gens qui tuent juste pour faire peur. Et donc, on ne dit pas à ce petit garçon qu'il y a ce danger-là. Et donc, il a bien remarqué les regards à l'horizon des collines, etc. Il sait que... qu'il y a un danger qui guette, mais il ne sait pas ce qui se passe. Il sent l'inquiétude, mais il ne sait pas. Et moi, je crois que c'est très, très bien quand il y a des mystères, parfois. Parce que découvrir, essayer d'élucider un mystère, ça fait grandir. Comment on fait les bébés ? Ça fait grandir. Comment ça marche ? Quelle taille a le soleil ? Tous ces mystères-là... Bon, ça fait grandir. C'est des questions. J'ai fait un album là-dessus, sur les questions drôlatiques. Mais le secret, c'est pas pareil. Le secret, c'est quelque chose qui mine, c'est quelque chose qui ronge, c'est quelque chose qui rend malade. Il y a des familles entières qui peuvent se désagréger et s'abîmer dans le désespoir parce qu'il y a un secret qui n'est pas dit. Les psychanalystes disent qu'il y a des secrets qui, des générations après, empêchent une famille d'aller bien. Et donc, quand j'ai écrit La poupée de Ting Ting, c'était aussi ça. Ce moment où, suite à un deuil dans une famille, on n'ose même plus prononcer le nom de la personne qui vient de partir. On n'ose même plus l'évoquer. Et là, chacun reste avec son chagrin. Personne n'ose prononcer le nom par peur de faire peur à l'autre, de faire de la peine à l'autre. Et on reste avec ça. Et on se fait un ulcère à l'estomac, on se fait un psoriasis, ou pire. On peut développer des le corps, à un moment donné, ne peut plus supporter ça. Et j'ai écrit La poupée de Ting Ting sur ce moment-là, et le moment où, à un moment donné, les mots prononcés par la petite fille dans le tronc creux de l'arbre vont la libérer et lui permettre de dépasser ce deuil. Ça, je crois que c'est important de dire aux enfants, parlez, allez-y, dites-le. Dites-le. Même si vous... Voilà, nous, on est adultes, on va pouvoir l'encaisser. Allez-y, parlez. C'est important. Et par rapport à Bagdan, c'est cette peur comme ça. Puis tout d'un coup, il se retrouve face à cette peur-là. Les brigands sont là. Et il sait que ça va... C'est pas des rigolos, quoi. Ils sont vraiment dangereux. C'est vraiment des méchants. Entre parenthèses, c'est super rigolo d'écrire un rôle... des personnages de méchants. C'est un bonheur à écrire. Donc voilà, c'est ces secrets-là, ces choses qui ne sont pas dites pour protéger, à un moment donné, peuvent faire du mal aux gens qu'on veut protéger. Donc c'est toujours la même question, soit quand on écrit ou autre, trouver le mot juste, arriver à dire les choses sans qu'elles angoissent davantage. Parce que alors là, ça serait vraiment contre-productif pour le coup. Juste dire ce qu'il faut, avec les mots qu'il faut, qui sont juste au niveau du gamin, pour que ça l'aide... et que ça ne le bloque pas. Donc ça, c'est assez compliqué. Donc j'ai écrit deux albums là-dessus. J'ai écrit donc la poupée de Ting Ting et Bagdan et la louve aux yeux d'or.
Tous les deux au Seuil Jeunesse, tous les deux illustrés
par Régis Lejean. Tout à fait.
On va terminer sur cette jolie note mystérieuse. Et c'est dans les histoires qu'on trouve du mystère. Et qu'on se fait les nôtres aussi.
C'est ça. On se soigne un peu aussi.
On se soigne. Alors, racontez-vous des histoires, racontons-nous des histoires. Merci beaucoup, Guylaine Roman. Merci beaucoup, Anne Loyer. On vous retrouve encore tout l'après-midi sur le salon. Et puis, dans vos livres, dans vos nombreux livres à
venir.
Merci.
Merci
beaucoup.
salon de Livre Jeunesse, c'était du 27 mars au 1er avril 2017. C'était à Triors. Et pour en savoir plus sur cet événement, vous pouvez toujours vous rendre sur leur site internet www.livre-jeunesse-chatillon.com.